Marie-Jeanne Riccoboni. Histoire d'Ernestine. Une étrangère, arrivée depuis 3 mois à Paris, jeune, bien faite, mais pauvre et inconnue, habitait 2 chambres basses au faubourg Saint-Antoine. Elle s'occupait à broder et vivait de son travail. Revenant un soir de vendre son ouvrage, elle se trouva mal en rentrant dans sa maison. On s'efforça vainement de la secourir, de la ranimer. Elle expira sans avoir repris essence, ni laissé apercevoir aucune marque de connaissance. Ses voisines, effrayées de ce terrible accident, remplirent sa triste demeure de cris et d'exclamations. Elles s'appelaient les unes les autres et se répétaient « Christine, hélas, la pauvre Christine !» Une bourgeoise, dont le jardin se terminait au mur de la maison d'où s'élevait ce bruit, attirée par le désir d'être utile à celle qui gémissait si haut, fut elle-même s'informer de la cause de leur clameur. On l'en instruisit. Pendant qu'on lui parlait, ses yeux se fixèrent sur une petite fille âgée de 3 ou 4 ans. Cette innocente créature pleurait près de la morte, l'appelait, la tirait par sa robe et lui criait « Ma mère, éveillez-vous ! Ma mère, éveillez-vous donc !» Le cœur de la sensible voisine s'émut à ce spectacle. Elle s'avança, prit la petite dans ses bras, la caressa, essuya ses larmes. La beauté de l'enfant redoubla son attendrissement. Elle envoya chercher un homme de justice, donna de l'argent pour faire inhumer l'étrangère. Ayant rempli toutes les formalités nécessaires au dessein de se charger de la jeune orpheline, elle la prit par la main et la conduisit chez elle. Celle dont le bon cœur éclatait par cet acte d'humanité se nommait Madame Dufrénoy. Veuve d'un marchand peu riche, elle s'était arrangée avec la famille de son mari. Contente de 3 000 livres de rente viagère, elle venait d'abandonner à des enfants de premier lit des droits assez considérables sur leur succession. Ce procédé généreux lui procura la satisfaction de voir établir convenablement les filles d'un honnête homme dont elle chérissait la mémoire. La petite étrangère s'appelait Ernestine. Elle était allemande et ne paraissait pas née dans la bassesse. Elle s'exprimait difficilement en français. À force de l'interroger, on comprit par ses discours qu'un méchant mari avait contraint l'infortunée Christine à quitter sa maison et sa patrie, et jamais on n'en apprit davantage. Ernestine pleura sa mère, la demanda souvent dans les premiers jours qui suivirent sa mort. Elle l'oublia, grandit, se forma, devint belle. Sa taille svelte et légère, des yeux noirs pleins de feu, de beaux cheveux cendrés, des dents blanches et bien rangées, un sourire doux et tendre, des grâces, un esprit naturel, la rendait à 12 ans une fille charmante. Elle reçut une éducation simple, apprit à chérir la sagesse, à regarder l'honneur comme sa loi suprême. Mais vivant très retirée, ses idées ne purent s'étendre. Elle n'acquit aucune connaissance du monde, et conserva longtemps cette tranquille et dangereuse ignorance des vices qui, éloignant de notre esprit la crainte et la triste défiance, nous porte à juger les autres d'après nous-mêmes et nous fait regarder tous les humains comme des créatures disposées à nous chérir et à nous obliger. Madame Dufrénoy, tendrement attachée à cette jeune personne, songeait avec douleur à l'état où elle se trouverait peut-être un jour. Que ferait Ernestine si la mort de son amie la laissait sans secours? Ne pouvant assurer son sort, elle voulut au moins lui donner un talent capable de lui procurer les besoins de la vie et même un peu d'aisance. Elle choisit la miniature et fit venir chez elle un peintre pour lui apprendre le dessin. Attentive, intelligente et docile, Ernestine s'appliqua, montra de grandes dispositions, les cultiva, fit des progrès et promettait de devenir habile quand Madame Dufrénoy, attaquée d'une fièvre maligne, fut en peu de moments réduite à la dernière extrémité. Elle mourut le 5e jour de sa maladie. Henriette du Ménil, sœur du peintre qui montrait à Ernestine, était liée d'amitié avec Madame Dufrénoy. Elle logeait près l'une de l'autre et se voyait assez souvent. Henriette avait environ 30 ans. Élevée par une de ses parentes, femme riche et répandue dans le monde, elle joignait à un naturel fort aimable cet agrément que donne l'habitude de vivre au milieu d'un cercle poli. Point de bien, peu de beauté, beaucoup d'esprit l'éloignait du mariage. La bonté de son caractère, l'honnêteté de ses mœurs et sa probité connue lui attachaient de sincères et constants amis. Henriette ne quitta pas Madame Dufrénoy pendant sa maladie et, quand il en fut temps, elle arracha la désolée Ernestine d'auprès de son lit, la conduisit chez sa parente et s'enferma avec elle dans son appartement. Elle laissa couler ses larmes, en répandit aussi, et lui accorda cette douceur nécessaire à un cœur affligé, cette liberté de se plaindre, de gémir, que des consolateurs insensibles ou maladroits croient devoir gêner, restreindre, nous ôter même. Ce zèle approche de la dureté. Une tranquille raison, de vains discours, de froides considérations, blesse une âme accablée du poids de sa douleur. Et d'où vient? Et pourquoi vouloir persuader à un malheureux que le trait dont il se sent déchiré doit à peine laisser des traces de son passage? Henriette, nommée exécutrice testamentaire par Madame Dufrénoy, s'acquitta fidèlement de cet office. On vendit les meubles et les effets au profit d'Ernestine et on plaça sur sa tête une somme de 8 000 livres qu'ils rapportèrent. Il fallait lui chercher un asile décent et convenable. Henriette ne pouvait la garder. M. Duménil, attaché à son élève, engagea sa femme à la prendre chez elle. Cet honnête homme se contenta d'une très petite pension, promit de cultiver ses dispositions et de la rendre capable de se soutenir par son talent. Ernestine accepta ses offres avec reconnaissance et 2 mois après la mort de sa bienfaitrice, Henriette la conduisit dans la maison de son frère. La douleur d'Ernestine était plus profonde qu'on ne devait l'attendre d'une personne de son âge. Elle pleurait Madame Dufrénoy, elle la pleurait amèrement, sans pourtant envisager toutes les conséquences de la perte qu'elle faisait en elle. Ses larmes avaient pour objet le regret d'être à jamais séparée d'une femme douce, bonne, attentive, d'une tendre, d'une indulgente compagne. Madame Duménil n'était pas d'un caractère à la dédommager de sa première amie. Légère, étourdie, folle même, elle riait de tout, ne s'intéressait à rien, confondait la tristesse avec l'humeur et ne voyait dans une personne affligée qu'une personne ennuyeuse. Cette femme, âgée de 26 ans, avait un goût décidé pour la dissipation et l'amusement. Très bornée dans ses dépenses, elle ne pouvait se procurer les plaisirs dont elle était avide, ni consentir à s'en priver. Elle chercha les moyens de satisfaire ses désirs malgré son peu de fortune et devint l'amie complaisante de plusieurs femmes d'une conduite peu exacte. M. Duménil, bon, simple, occupé de son talent, eut soin de ménager une poitrine délicate, une santé faible et souvent languissante, laissait vivre sa femme à sa propre fantaisie. Une gouvernante, âgée et raisonnable, conduisait la maison, avait de grandes attentions pour son maître. Madame Duménil allait au spectacle, à la promenade, soupait dehors, rentrait tard, dormait une partie du jour. Et comme son mari ne le trouvait point mauvais, rien ne l'engageait à se contraindre. L'élève de M. Duménil, appliqué à son étude, la rencontrait à peine 2 fois en 1 mois, et quand elle se parlait, c'était avec politesse, mais avec une mutuelle indifférence. Ernestine passa 3 années chez son maître sans que rien troublât la paisible uniformité de sa vie. Parvenue au degré de perfection où M. Duménil pouvait la conduire, un goût naturel lui fit passer de bien loin ses leçons. Il s'en aperçut avec plaisir. Comme il était souvent malade, incapable de travailler lui-même, il pensa à faire connaître le talent de son écolière. Il engagea plusieurs de ses amis à se laisser peindre par elle, et les essais commencèrent à lui donner de la réputation. Un jour que, seule dans le cabinet de M. Duménil, elle achevait les ornements d'une miniature qu'il devait livrer incessamment, elle entendit ouvrir la porte, se tourna, vit un homme dont la parure et l'air distingué pouvaient attirer l'attention. Par une suite de l'application d'Ernestine à son ouvrage, elle fut seulement frappée de trouver en lui l'original du portrait où elle travaillait. Elle le salua sans lui parler, une simple inclination, un signe de la main l'invitèrent à s'asseoir. Il obéit en silence. Ernestine fixa ses regards sur lui, les baissa ensuite sur la miniature, et pendant assez longtemps, ses yeux se promenèrent alternativement sur l'aimable cavalier et sur son image. Cette singularité causa autant de plaisir que de surprise au marquis de Clémengis. Il venait presser M. Duménil de lui donner ce portrait. Une dame l'attendait avec impatience. Il avait cru trouver le peintre dans ce cabinet où il travaillait ordinairement. Y voir à sa place une fille charmante, occupée à considérer ses traits, si parfaitement attachée à contempler son image, qu'elle semblait se plaire à la regarder. C'était une espèce d'aventure simple mais agréable. Elle l'amusa, l'intéressa et lui fit une impression très vive. Pendant qu'Ernestine continuait à comparer l'original et la copie, le marquis admirait les grâces répandues sur toute sa personne. Impatient de l'entendre parler, il souhaitait que son éducation et son esprit répondissent à une figure si séduisante. Il allait commencer l'entretien quand M. Duménil arriva et lui fit de longues excuses sur ce qu'il ne pouvait encore livrer le portrait. Le marquis, déjà moins pressé de le donner, interrompit le peintre, et voulant se procurer encore la douceur de voir les yeux d'Ernestine se fixer sur les siens, il feignit de n'être pas content, trouva des défauts de ressemblance, de dessin, de coloris. Comme il blâmait au hasard, la jeune élève de M. Duménil ne put s'empêcher de rire de ses observations. Le marquis la pria d'examiner avec attention s'il se trompait. Elle le voulut bien. Il se plaça vis-à-vis d'elle. Et après y avoir mis toute son application, Ernestine jugea la copie parfaite. M. de Clémangis s'obstina. Elle ne céda point. Le son de sa voix, la justesse de ses expressions, un peu de vivacité excitée par les fausses remarques du marquis, achevèrent de l'enchanter. Il demanda une copie de son portrait, exigea qu'elle fût entièrement de la main d'Ernestine. Le peintre le promit. M. de Clémangis, manquant enfin de prétexte pour prolonger le plaisir de rester avec Ernestine, sortit à regret de ce cabinet. Et M. Duménil, l'accompagnant jusqu'à son carrosse, satisfit sa curiosité en l'instruisant du sort de son élève. Celui que le hasard venait d'offrir aux yeux d'Ernestine joignait à 1000 agréments extérieurs un caractère rare et peut-être un peu singulier. M. de Clémangis, descendu d'une maison ancienne et distinguée, n'était pas né riche. Ses espérances de fortune dépendaient de la révision d'un procès sollicité depuis près d'un siècle par ses pairs. Son bonheur avait placé dans le ministère un de ses proches parents. Chéri de cet homme puissant, le marquis jouissait de tous les avantages attachés à la faveur. Mais il n'en abusait pas. Plus sensible que vain, plus libéral que fastueux, son âme noble et délicate appréciait la grandeur et la richesse par le pouvoir qu'elle donne de faire des heureux. Un naturel doux et tendre le portait à désirer des amis. Il trouvait des flatteurs, les servait et les dédaignait. Il découvrait un sentiment intéressé dans tous ceux dont il se voyait caressé. L'amour même ne lui donnait point de plaisir sans mélange. S'il goûtait un instant la satisfaction de se croire choisi, préféré, d'importunes demandes, des sollicitations pressantes et réitérées, lui laissait bientôt apercevoir que son crédit attirait autant que sa personne. Depuis longtemps, il cherchait en vain un cœur capable de l'aimer pour lui-même et s'affligeait de ne pouvoir le trouver. Pendant qu'Ernestine s'occupait à copier le portrait du marquis, elle recevait sa visite tous les matins et n'attribuait son assiduité qu'au motif dont il la couvrait. Rien n'avait préparé son esprit à la défiance. Elle ignorait le danger où la vue d'un homme aimable pouvait l'exposer et la simplicité de ses idées la laissait dans une parfaite sécurité. Quand on n'a jamais senti le désir de plaire, on plaît longtemps sans s'en apercevoir. Et l'amour qui se cache ressemble tant à l'amitié qu'il est facile de s'y méprendre. Monsieur de Clémangis, chaque jour plus charmé d'Ernestine, voyait avec chagrin que l'ouvrage avançait. Pour se conserver le plaisir d'aller souvent chez le peintre, il résolut d'apprendre un art qu'il commençait à aimer. Monsieur Duménil, faible alors, condamné à périr bientôt d'un mal incurable, se trouvait rarement en état de diriger les essais du marquis. Sa charmante élève fut chargée de ce soin. Elle apprenait à cet écolier docile à tenir, à guider ses crayons, lui enseignait à imiter les traits qu'elle-même formait. Souvent, elle riait de sa maladresse. Quelquefois, elle le grondait, l'accusait de peu d'intelligence, se plaignait de ses distractions, et lui montrant deux petites filles qui dessinaient dans la même chambre, elle lui reprochait de profiter moins de ses leçons que ses enfants. Jamais le marquis n'avait passé des moments si agréables. la douceur de s'entretenir familièrement avec une fille de 16 ans, belle sans le savoir, modeste sans affectation, amusante, vive, enjouée, à laquelle son rang, sa fortune ou son crédit n'imposaient aucun égard, qui laissait paraître une joie naturelle à son aspect, dont l'innocence et l'ingénuité rendaient tous les sentiments libres et vrais. Être assis tout près d'elle, la nommer sa maîtresse, lui voir prendre une espèce d'autorité sur lui, s'empresser à la contenter, à lui plaire sans en avouer le dessein, se flatter d'y réussir. C'était pour le marquis de Clémangis une occupation si intéressante qu'insensiblement, il devint incapable de goûter tous ces vains amusements dont l'oisiveté cherche à se faire des plaisirs. Madame Duménil, que l'état fâcheux de son mari forçait à rester chez elle, s'aperçut de l'amour du marquis. Elle lui montra une humeur complaisante, eut de longs entretiens avec lui, gagna sa confiance, entra dans ses vues, et, contente de sa générosité, elle commença à traiter Ernestine comme une personne dont elle se reprochait d'avoir longtemps négligé la société. Elle lui fit de tendres caresses, voulut connaître ses besoins, ses désirs, s'empressa à les satisfaire. Chaque jour rendait la situation d'Ernestine plus douce et plus agréable. Sa reconnaissance lui fit oublier la longue froideur de cette femme, ses bontés la touchèrent, elle lui pardonna une légèreté d'esprit dont, après tout, elle n'avait jamais souffert. Quand les défauts des autres ne nous nuisent pas, il est rare qu'ils nous choquent beaucoup. Comme Madame Duménil était gaie, complaisante, et qu'un secret intérêt l'engageait à se faire aimer d'Ernestine, elle inspira aisément de l'amitié à une fille sensible qui croyait tenir d'elle l'aisance dont elle commençait à jouir. Monsieur Duménil touchait à ses derniers moments. La certitude de sa mort faisait couler les larmes de sa tendre élève et souvent le marquis la trouvait toute en pleurs. Une vive inquiétude se mêlait à son chagrin. Henriette, partie depuis 2 mois pour la Bretagne, cessa tout à coup de lui donner de ses nouvelles. Elle lui manquait dans un temps où ses conseils lui devenaient nécessaires. Ernestine lui écrivit plusieurs fois et ne reçut aucune réponse. Ce silence l'affligea. Son amie était-elle malade? Négligeait-elle de l'instruire du parti qu'elle devait prendre après la mort de son maître? Elle en parla à Madame Duménil, qui la rassura sur la santé d'Henriette et la gronda doucement de lui demander des avis dont elle n'avait pas besoin. « Me croyez-vous capable de vous abandonner ?» lui dit-elle d'un ton affectueux. « Songez-vous à me quitter ?»« Non, ma chère Ernestine, nous ne nous séparerons point. Vous partagerez ma fortune, elle est peut-être assez étendue pour vous rendre heureuse. J'ai des ressources qui vous sont inconnues. Gardez le silence sur ce secret. Cessez de vous alarmer et ne regrettez plus les avis d'Henriette. Ils ne pourraient que déranger le plan tracé pour votre bonheur. » Ces discours, souvent répétés, dissipèrent l'inquiétude d'Ernestine. Mais son cœur fut blessé de l'oubli d'Henriette. En partant, elle lui avait promis de s'intéresser toujours à son sort, de lui procurer un asile si son frère mourait. Elle ne pouvait accorder un procédé si froid avec le caractère d'Henriette. Mais l'attachement qu'elle prenait pour Madame Duménil affaiblit peu à peu ce chagrin, et, sans le vouloir, le marquis aida lui-même à en distraire. Le temps approchait où M. de Clémangis allait s'éloigner. Le régiment qu'il commandait venait de passer en Italie. Il fallait bientôt partir pour s'y rendre. Malgré ses efforts, Ernestine s'aperçut de sa tristesse. Rêveur, inquiet, il gardait un morne silence. Le changement de son humeur la surprit et ses distractions la fâchèrent. Il passait le temps de sa leçon à soupirer, à se plaindre d'une douleur intérieure, d'une peine secrète et violente. Ernestine se sentit touchée de l'état où elle le voyait. Elle lui en demanda la cause avec intérêt, le pressa de la lui confier. Mais voyant que ses questions le rendaient plus triste encore, elle cessa de l'interroger, sans cesser de s'occuper de son chagrin. Elle y pensait à tout moment, attendait impatiemment l'heure où le marquis devait venir, portait sur lui des regards curieux et attentifs, et le trouvant toujours sombre, elle baissait les yeux, craignait de rencontrer les siens, n'osait lui parler et se demandait tout bas « Qu'a-t-il donc? Je le croyais si heureux. Hélas, aurait-il cessé de l'être ?» Pendant qu'elle partageait la douleur du marquis sans en connaître le principe, il s'occupait du soin généreux de fixer pour jamais son sort, de le rendre heureux et indépendant. Madame Duménil, engagée par une grande récompense à paraître répandre sur son ami les biens dont M. de Clémangis allait la faire jouir, ne pouvait comprendre l'étrange conduite d'un amant si libéral et si discret. « Comment espérez-vous toucher le cœur d'Ernestine ?» lui disait-elle, « si vous lui cachez la passion qu'elle vous inspire. Vous l'enrichissez et vous voulez lui laisser ignorer votre amour et vos bienfaits ?»« Ah, puisse-t-elle les ignorer toujours, ses bienfaits ?» répondit-il. « Je veux lui plaire et non pas la séduire, et jamais la contraindre ou la servir. J'aime à la voir me montrer une innocente affection, s'attacher à moi sans dessein, sans projet, sans crainte, sans espérance. » Un tendre intérêt se peint dans ses yeux depuis qu'elle s'aperçoit de ma tristesse. Elle-même, peut-être, imposerai-je des lois à cette fille charmante. En excitant sa reconnaissance, je gênerai son inclination, je m'ôterai la douceur de penser que je possède un cœur qui ne prise en moi que moi-même. Monsieur de Clémangis répéta alors à Madame Duménil toutes les instructions qu'il lui avait déjà données, sur la façon dont elle se conduirait après la mort de son mari. Elle promit de se conformer à ses intentions, de garder fidèlement son secret et de lui apprendre par ses lettres ce qu'Ernestine penserait du changement de sa situation. Peu de jours après cet entretien, M. de Clémangis fut contraint de s'éloigner. Le lendemain de son départ, à l'heure où il se rendait ordinairement chez Ernestine, elle reçut de sa part une boîte fort riche. Elle renfermait le portrait que M. Duménil avait fait du marquis et ce billet « Le marquis de Clémangis à Ernestine. « Je vous quitte, ma charmante maîtresse. Un devoir indispensable m'arrache à la douceur de vous voir, de profiter de vos soins, de vos bontés. Mais je n'oublierai point vos leçons. Pendant une longue et triste absence, ma seule consolation sera de me les rappeler. » Dans vos moments de loisir, daignez vous occuper à regarder ce portrait, à le copier. Multipliez l'image d'un ami dont le cœur vous est tendrement attaché. Conservez son souvenir et souhaitez quelquefois de le revoir. Ernestine sentit de l'émotion et de la douleur en lisant ce billet. Pourquoi M. de Clémangis s'éloignait-il sans prendre congé d'elle, sans lui dire qu'il partait? Elle lut plusieurs fois sa lettre, toujours révoltée du mystère de sa conduite. Insensiblement, elle s'attendrit, le regret succéda au dépit. Elle s'était fait une douce habitude de voir le marquis, de lui parler, de passer des heures entières avec lui. Quelle privation ! Elle perdait jusqu'au plaisir de l'attendre. Ses yeux, mouillés de quelques larmes, s'attachèrent sur le portrait. Elle le considéra longtemps, mais ne l'examinant plus en artiste, elle trouva que M. de Clémangis avait eu raison de se plaindre de cet ouvrage. « Voici ses traits, disait-elle, sa physionomie. Mais où est l'âme, la vivacité de cette physionomie? Où sont ces regards si doux où l'amitié se peint? Combien d'agréments négligés? Est-ce là ce sourire fin et tendre, cet air de bonté, de grandeur? Où sont tant de grâces dont j'aperçois à peine une faible esquisse ?» En parlant, Ernestine repoussait tous les dessins qui étaient sur sa table, cherchait ses crayons. Et, remplie de l'idée du marquis, elle se flattait d'en tracer de mémoire une image plus exacte. Ce travail intéressant fut interrompu peu de jours après par la mort du pauvre Duménil. Ernestine, tendrement attachée à cet homme, le regretta sincèrement. Sa veuve, pressée d'abandonner un lieu propre à exciter la tristesse, sentiment qu'elle craignait, se hâta de charger un de ses parents du soin de ses affaires, et dès que la bienséance le lui permit, elle se rendit avec Ernestine à 3 lieues de Paris, dans une maison charmante. Plusieurs valets, prévenus de leur arrivée, se présentèrent pour les recevoir et s'empressèrent à les servir. Ernestine pleurait encore. Elle se rappelait sans cesse la douceur et l'amitié que son maître lui avait toujours montrées. Cependant, l'aspect riant et magnifique de ce beau séjour suspendit son chagrin. Les appartements, les jardins, la vue, l'émail et le parfum des fleurs, tout surprit ses sens, tout charma ses regards. Et qui vous a donc prêté cette agréable demeure ? Dit-elle à son ami. Ceux qui l'habitent doivent se trouver bien heureux. Si la liberté d'y vivre vous paraît un bonheur, répondit Madame Duménil, jouissez-en, ma chère amie, et ne craignez pas de le perdre. Je dispose actuellement d'une fortune assez considérable. Cette jolie terre en fait partie, et vous en êtes la maîtresse. Alors elle lui conta une petite histoire, adroitement préparée pour lui persuader que son mariage, contracté malgré ses parents, l'avait privée de ses biens pendant la vie de son mari. Rien ne portait Ernestine à douter de la sincérité de cette femme. Elle ne connaissait ni les lois ni les usages, elle la crut sans hésiter, la félicita de l'heureux changement de sa situation et se sentit vivement touchée des assurances que Madame Duménil lui donnait de partager avec elle toutes les douceurs de son nouvel état. Pour contenter son amie, Ernestine fut obligée d'occuper le plus bel appartement, d'accepter de riches présents, de se prêter aux soins d'une femme de chambre destinée à la servir seule. Il fallut se laisser parer. Madame Duménil dirigea l'emploi de son temps et voulut obstinément que sa toilette en remplît une partie. On lui apprit à relever ses charmes par tout ce qui pouvait en augmenter l'éclat. Insensiblement, cet art lui devint facile et agréable. Elle se plut, elle s'aima même. Mais ce fut avec une modération dont son heureux naturel la rendait capable en tout. Un maître à danser vint lui enseigner à développer les grâces de sa personne, on lui donna des leçons de musique, ses mains adroites s'accoutumèrent bientôt à parcourir les touches d'un clavecin, une oreille parfaite la conduisit en peu de temps à unir les sons de sa voix légère à leur harmonie. Le désir de plaire à Madame Duménil aidait beaucoup à ses progrès. Souvent aussi, elle était animée par le plaisir de penser qu'à son retour, le marquis de Clémangis la trouverait plus instruite, plus aimable, plus digne de son amitié. En s'éloignant d'Ernestine, cet amant délicat s'était proposé de lui écrire souvent. Mais éprouvant une extrême difficulté à le faire sans se livrer à toute la tendresse de son cœur, il se contentait de recevoir des lettres de Madame Duménil. Elle l'instruisait chaque semaine de la santé d'Ernestine et de ses occupations. Il apprit avec ravissement qu'elle employait tous les moments dont elle disposait à commencer des copies de son portrait ou à retoucher celui qu'elle s'obstinait à faire sans modèle. Deux personnes qui pensent différemment ne se trouvent pas également heureuses en jouissant des mêmes avantages. Madame Duménil, gênée par ses promesses, regrettait souvent ses anciennes amies et la vie bruyante de la ville. Ses amusements se bornaient à de longues promenades. Une jolie voiture, un très bel attelage, lui servaient à parcourir toutes les campagnes des environs. Quelquefois, elle se repentait de s'être engagée à tenir une conduite si peu conforme à son goût. Mais les avantages qu'elle retirait de sa complaisance et l'espoir de retourner à Paris au commencement de l'hiver l'aidaient à supporter l'ennui de sa solitude. Ernestine, accoutumée à la retraite, vivait parfaitement contente. Tout dans la nature présentait à ses yeux un spectacle agréable et intéressant. Le lever de l'aurore, le soir d'un beau jour, les bois, les prés, le chant des oiseaux, les productions variées de la terre, offrait à son esprit paisible ou des objets de plaisir ou le sujet d'une tendre rêverie. Son penchant pour M. de Clémangis animait son cœur sans le troubler, lui faisait goûter une partie des douceurs que donne le sentiment sans y mêler l'agitation violente qui s'élève des passions. Elle souhaitait de revoir le marquis, mais une impatiente ardeur ne rendait pas ce désir un mouvement pénible. Dans cette position tranquille, qui pouvait engager Ernestine à porter ses vues au-delà des apparences? Une situation heureuse ne conduit point à réfléchir. Pourquoi voudrait-on approfondir la cause du bonheur dont on jouit? Le bien-être nous paraît un état naturel. Son interruption nous trouble, nous agite. Le malheur nous instruit, étend nos idées, rend notre âme inquiète et notre esprit actif, parce que la douleur nous fait chercher en nous-mêmes des forces pour la supporter ou des ressources pour nous en affranchir. Dès l'ouverture de la campagne, les préliminaires de la paix étaient avancés, les armées n'avaient ordre que de s'observer. Vers le milieu de l'été, elles reçurent celui de se séparer et nos troupes repassèrent les monts. Le marquis de Clémangis, resté malade à Turin, n'arriva à Paris qu'au commencement de l'automne. Après s'être acquitté de ses devoirs les plus pressants, il céda au désir de revoir l'objet de sa tendresse et partit pour la riante habitation que sa générosité avait rendue le domaine d'Ernestine. Elle était seule quand on lui annonça le marquis. À son nom, elle poussa un cri de joie, se leva, courut à sa rencontre, lui fit mille questions et laissa paraître ingénument tout le plaisir qu'elle sentait de le revoir. Ému, pénétré de cet accueil, M. de Clémangis resta un peu de temps sans parler. Il considérait Ernestine avec autant d'étonnement que de satisfaction. Elle s'était toujours offerte à ses regards, dans un négligé propre mais simple, devant son éclat, à sa fraîcheur, à la régularité de ses traits, à ses agréments naturels. Ses charmes relevaient par mille grâces nouvelles, l'aisance de ses mouvements, la noblesse de sa figure, cette dignité imposante dont l'innocence décore la beauté, inspirèrent autant de respect que de surprise à M. de Clémangis. Il crut voir cette charmante fille pour la première fois. Elle lui parut née dans l'état où sa générosité l'avait placée. Parée de ses dons, environnée de ses bienfaits, elle ne lui devait point de reconnaissance, elle ignorait ses obligations. Rien ne la servissait, rien ne l'humiliait aux yeux d'un homme qui, loin d'oser lui vanter ses soins, craignait de les laisser paraître et s'interrogeait souvent pour s'assurer s'il ne se trompait pas lui-même au motif qui le portait à les prendre. Pendant plusieurs jours, le marquis conserva un air timide et embarrassé auprès d'Ernestine. Il hésitait en la nommant sa maîtresse, il avait peine à reprendre avec elle ce ton familier et gai de leurs premiers entretiens. Peu à peu, sa position devint gênante. Avant son départ, occupé seulement du désir de plaire, incertain des sentiments qu'il inspirait, le doute lui laissait la force de cacher les siens. Mais voir Ernestine sensible et n'oser le paraître lui-même, lire dans ses yeux attendris les plus douces expressions de l'amour et se taire, quelle contrainte, quel supplice pour un amant passionné qui goûtait enfin un bien si longtemps souhaité, celui d'être aimé, véritablement aimé. Sa fortune dépendant encore d'une contestation difficile à terminer, la nécessité de ménager la faveur d'un parent dont l'amitié méritait sa reconnaissance, le monde, les préjugés reçus, tout élevait une barrière insurmontable entre Ernestine et lui. Il ne songeait point à la franchir, l'honnêteté de son cœur, la noblesse de ses principes ne lui permettaient pas non plus d'avilir une fille estimable, de mettre un prix honteux à des dons qu'elle n'avait point exigés. S'arracher au plaisir de la voir, c'était un moyen de recouvrer sa tranquillité. Mais la dureté de ce moyen le révoltait. Si, quelquefois, il consentait à s'affliger lui-même, à s'éloigner, la certitude d'être aimé l'arrêtait. Comment se résoudre à chagriner l'aimable, la sensible Ernestine? L'éviter? La fuir? Elle qui, dans la simplicité de son cœur, s'attachait tous les jours plus fortement à lui? Que penserait-elle d'un ami bizarre et cruel? Quelles seraient ses idées? Mépriserait-elle son inconstance? En serait-elle touchée? Oui, sans doute, il ne pouvait se dissimuler que sa présence n'excitât la joie d'Ernestine. Ah, comment l'en priver quand elle était peut-être devenue nécessaire au bonheur de sa vie? Cette dernière considération fut si puissante sur l'esprit de M. de Clémangis qu'elle fixa ses résolutions. Il ne changea point de conduite avec Ernestine, elle n'aperçut en lui qu'un ami sincère, assidu, complaisant, empressé à lui préparer des amusements et content d'être admise à les partager. Les moments qu'ils passaient ensemble s'échappaient avec rapidité. Amant secret, ami dévoué, le désir de se plaire, de tendres soins, de délicates attentions, entretenait le charme inexprimable de ce commerce intime et délicieux. Ernestine en goûtait les douceurs, sans crainte et sans inquiétude. Mais un bonheur si grand devait être cruellement troublé, et le temps approché où la perte de l'heureuse ignorance qu'il lui procurait allait le détruire. Madame Duménil, peu capable de distinguer les caractères, ne connaissait ni les sentiments, ni les véritables intentions de M. de Clémangis. En s'engageant à seconder ses desseins, elle espérait jouir des plaisirs qu'un amant prodigue rassemblerait autour de sa maîtresse. Une maison ouverte, un cercle nombreux, d'amusants soupers, des fêtes continuelles, offraient à son idée la plus brillante perspective. Trompée dans son attente, elle prit de l'humeur, se plaignit au marquis de l'ennuyeuse retraite où elle vivait, l'avertit qu'elle ne pouvait la supporter plus longtemps et menaça de quitter Ernestine si elle passait l'hiver à la campagne. Le dessein de M. de Clémangis n'était pas de l'y laisser. Il avait fait meubler une maison à Paris pour elle. Mais ne voulant point répandre sa jeune amie dans le monde, il se repentait de s'être confié à une femme si peu raisonnable. Il fallait ou la contenter ou la séparer d'Ernestine. De nouvelles libéralités et beaucoup de condescendance apaisèrent Madame Duménil. Elle revint à Paris et conduisit Ernestine au faubourg Saint-Germain, dans une maison peu spacieuse mais fort ornée. Deux jours après leur arrivée, elle lui porta à sa toilette plusieurs bijoux à son usage et un écrin rempli de pierreries. Ce présent toucha Ernestine comme une nouvelle preuve de l'attentive amitié de Madame Duménil. Mais sa magnificence ne l'éblouit point. Elle commençait à s'accoutumer à la richesse, à l'éclat. Et comme elle ne souhaitait pas d'exciter l'envie, elle était bien éloignée de mettre à la possession de ces brillantes bagatelles le prix que le commun des femmes y attache. Madame Dumézil la pressa de s'emparer, et se rappelant que le marquis était à Versailles, elle se hâta de profiter de son absence pour mener Ernestine à l'opéra. Son projet était de lui inspirer le goût des plaisirs qu'elle-même préférait et de contraindre M. de Clémangis à lui laisser la liberté d'en jouir. La nouveauté des objets attira toute l'attention d'Ernestine. Elle ne s'aperçut point qu'elle fixait les regards d'une foule de spectateurs, charmés de la voir et surpris de ne pas la connaître. Une riche parure, peu de rouge, beaucoup de modestie, la figure décente de Madame Duménil, l'air noble de sa jeune compagne, les firent passer pour des femmes nouvellement arrivées de province. Tous les yeux s'attachèrent sur Ernestine. En sortant de sa loge, elle se vit entourée et presque pressée par l'indiscrète curiosité d'un essaim de ses importuns enfants, abandonnés trop tôt à leur propre conduite, souvent embarrassés d'eux-mêmes et toujours incommodes aux autres. Parvenue au pied de l'escalier, où plusieurs femmes attendaient leur voiture, Ernestine reconnut parmi elles Mademoiselle Duménil, qu'elle croyait encore en Bretagne. La voir, s'écrier, percer la foule, courir à elle, l'embrasser, répéter « Henriette, ma chère Henriette !» Ce fut l'effet d'un mouvement si rapide que sa compagne ne put ni le prévenir ni l'arrêter. Henriette, embarrassée, loin de répondre aux caresses d'Ernestine, paraissait vouloir s'en défendre, la repousser doucement. « Y songez-vous, mademoiselle, est-ce le temps, le lieu ?» lui disait-elle. « Et pourquoi ce feint empressement après un si long oubli ? Retirez-vous, je vous en prie. Tout nous sépare à présent, et vous ne devez pas regretter la perte d'une inutile amie. »« La perte d'une amie ?» répéta Ernestine. « Et d'où vient ? Et comment l'ai-je perdue ? Quoi, ma chère Henriette, vous ne m'aimez plus ? Vous avouez que vous ne m'aimez plus ?»« Je vous plains, mademoiselle, » dit Henriette, « c'est vous aimer encore ?» T'es vous aimer autant que la différence actuelle de nos sentiments peut me le permettre. » Et la regardant d'un air attendri, « Aimable et malheureuse fille, » ajouta-t-elle fort bas, « est-ce bien vous ? Quel éclat ! Mais quel faible dédommagement de celui dont brillait la simple, l'innocente élève de mon frère !» Une dame qui l'accompagnait, l'appelant alors pour sortir, elle la suivit et laissa Ernestine étonnée, confuse et presque immobile. Madame Duménil n'avait osé s'approcher de sa belle-sœur. En retournant chez elle, un peu d'inquiétude lui faisait garder le silence. Elle attendait qu'Ernestine parlât et voulait juger par ses discours de ceux d'Henriette. Il lui paraissait impossible qu'un entretien si court eût produit de grands éclaircissements. Mais son amie se taisait, soupirait. Et la consternation où elle la voyait lui causait un véritable embarras. Occupée à se répéter les expressions d'Henriette, à en pénétrer le sens, Ernestine s'abîmait dans cette rêverie pénible où la foule des idées ne permet pas d'en apercevoir une distincte et de s'y arrêter. Henriette me plaint, dit-elle enfin. Tout nous sépare. Les bienfaits dont vous m'avez comblé ont blessé ses regards. Leur éclat ne convient point à l'élève de son frère. Malheureuse fille, s'est-elle écriée. Et d'où naît cette compassion si différente de celle que je lui inspirais autrefois? Hélas, j'ai toujours excité la pitié. Pourquoi ce sentiment m'humilie-t-il aujourd'hui? Dès mes plus jeunes ans, abandonnée aux soins de la Providence, recueillie par des mains bienfaisantes, j'ai dû ma subsistance et mon éducation à la généreuse amitié de Madame Dufrénoy. Henriette, dépositaire de ses dernières bontés, n'a pas cessé de m'estimer en me les assurant. Pourquoi vos dons me baissent-ils à ses yeux? En les recevant, ai-je mal fait? Oui, sans doute, le faste et la richesse ne me conviennent point. Cet éclat emprunté peut fixer les regards sur moi, rappeler ma première situation, porter l'envie à me la reprocher. Que sais-je, peut-être n'est-il pas permis aux pauvres de s'élever. L'obscurité, la vie simple et active est peut-être son unique partage. En subsistant des bienfaits d'un ami, tout ce qu'on accepte au-delà de ses besoins rend peut-être ridicule et méprisable. Et que vous importent les idées d'Henriette, répondit Madame Duménil. Dépendez-vous d'elle? Cette fille hautaine et sévère a-t-elle des droits sur vous? Comment oserait-elle vous blâmer d'accepter mes dons quand elle-même doit tout à l'affection d'une parente éloignée? Vous m'avez extrêmement désobligée en courant à sa rencontre. Elle m'a toujours haïe, mais depuis la mort de son frère, j'ai eu le plaisir de la chagriner. Elle voulait se mêler de ma conduite, régler la vôtre. Mais en lui fermant ma porte, j'ai su m'affranchir de sa tyrannie. Elle est irritée contre moi, je le sais. Comment me pardonnerait-elle de vous avoir rendue heureuse sans la consulter sur les moyens d'assurer votre sort, sans lui confier des arrangements que l'austérité de ses principes lui aurait fait rejeter? Vous avez fermé votre porte, Henriette? S'écria Ernestine, surprise. Eh, bon Dieu, que m'apprenez-vous? D'où vient vous montrer si fâchée? Reprit Madame Duménil. Qu'avez-vous donc à regretter? Si je vous prive d'une amie, ne la retrouvez-vous pas en moi? Après ce que j'ai fait pour vous, je m'étonne de vous voir si attachée à une autre. Jouissez sans inquiétude de cette aisance qui blesse les regards de Mademoiselle Duménil. Et si le hasard offre encore à vos yeux une personne si désagréable aux miens, évitez de lui parler. Vous me devez cette légère condescendance et je l'exige de votre amitié. Ernestine n'osa insister sur les explications qu'elle désirait. Elle fut triste, agitée tout le soir. La nuit augmenta son inquiétude. Mille réflexions s'élevaient dans son esprit. Pourquoi Madame Duménil l'avait-elle toujours assurée que sa belle-sœur était absente? D'où naissait une haine si décidée, si forte? Pendant la vie de M. Duménil, elle ne se cherchait pas, mais elle se voyait assez souvent. Comment Henriette se serait-elle opposée à des arrangements avantageux pour son amie, elle qui avait tant de fois souhaité d'être riche et de partager sa fortune avec sa chère pupille? On la traitait de sévère, de hautaine. Ces épithètes convenaient-elles au naturel indulgent, à l'humeur douce de Mademoiselle Duménil? Ernestine entrevit du mystère dans la conduite de sa compagne. Un soupçon vague éleva sa défiance et lui inspira une sorte de crainte. Cependant, elle essaya de se calmer, de perdre le souvenir de cette rencontre, de donner à Madame Duménil une preuve de son attachement et de sa reconnaissance en se conformant à sa volonté. Mais comment supporter le doute où elle resterait? Elle avait cru voir du mépris, de l'indignation dans les yeux de Mademoiselle Duménil. Trompée par un faux rapport, son amie l'accusait peut-être d'entretenir la mésintelligence entre sa sœur et elle. Cette dernière pensée ranima le désir de faire expliquer Henriette. Et comme Ernestine ne s'était point accoutumée à résister au mouvement de son âme, elle s'y abandonna, attendit le jour avec impatience, se leva dès qu'il parut, s'habilla simplement et, déjà prête quand on entra chez elle, après s'être encore consultée, avoir hésité un peu de temps, elle demanda des porteurs, sortit seule et se rendit chez Henriette. Mademoiselle Duménil venait de s'éveiller quand on lui annonça une visite qu'elle était fort éloignée d'attendre. « Eh, bon Dieu ! » cria-t-elle à Ernestine d'un air surpris. « Vous voir ici, vous, mademoiselle, quelle affaire si pressante peut donc vous y attirer ?»«
La plus intéressante de ma vie, » répondit-elle. « Je viens savoir si vous êtes encore cette amie, autrefois si sensible à mon malheur, dont le cœur s'ouvrait à mes peines, dont la main essuyait mes larmes. Si vous n'êtes point changée, pourquoi m'avez-vous affligée et presque offensée hier ? Si vous cessez de m'aimer, apprenez-moi comment j'ai perdu votre affection. » Je me plaignais d'une longue négligence, d'un oubli surprenant. Me plaindrais-je à présent de votre injustice ? Et passant ses bras autour de son amie, la pressant tendrement, « Parlez, ma chère Henriette, dites-moi ce qui nous sépare et pourquoi mon heureuse situation semble vous inspirer de la pitié. »«
Votre heureuse situation ?» répéta mademoiselle Duménil. « Si elle vous paraît heureuse, un léger reproche peut-il en troubler la douceur ? Mais quel dessein vous engage à me chercher ? Pourquoi me presser de parler ? Ne m'avez-vous pas entendu ?»«
Non, dit Ernestine. Que me reprochez-vous ? Qu'ai-je fait ? En quoi nos sentiments diffèrent-ils ? Ma conduite vous paraît-elle blâmable ?»«
Cette question m'étonne, reprit mademoiselle Duménil. » Et la regardant fixement, « Osez-vous m'interroger avec cet air paisible sur un sujet si révoltant ?» lui dit-elle. « En vous écartant de vos devoirs, avez-vous perdu le souvenir des obligations qu'il vous imposait ? Ne vous en reste-t-il aucune idée ?»«
Vous rougissez, » ajouta-t-elle, « vous baissez les yeux. La pudeur brille encore sur le front noble et modeste d'Ernestine.
Ah, comment a-t-elle pu la bannir de son cœur ?»«
Je rougis de vos expressions et non pas de mes fautes, » dit Ernestine.
« Exact à remplir les devoirs qu'on m'apprit à suivre, je ne me reproche rien. Cependant, vous m'accusez. Je me suis écartée de ces devoirs, j'en ai perdu l'idée. Qui vous l'a dit ? Sur quoi le jugez-vous ? » ?»«
Je ne vous aurais jamais soupçonné de cette surprenante assurance, » dit Henriette.
« Mais cessons cet entretien. Ne me forcez point à m'expliquer sur les sentiments qu'il peut m'inspirer. » « Ah, mademoiselle, vous avez fait à la richesse un sacrifice bien volontaire, bien entier, s'il ne vous reste pas même assez de décence pour rougir de l'état méprisable que vous avez choisi. »«
Eh, mon Dieu !» s'écria Ernestine tout en pleurs. « Est-ce une amie ? Est-ce Henriette qui me traite avec tant de dureté ? Un état méprisable ? J'ai choisi cet état ? J'ai renoncé à la décence ? Je l'ai sacrifié à la richesse ? Moi, comment ? En quel temps ? En quelle occasion ? Quoi, mademoiselle, vous osez m'insulter si cruellement ? Vous osez m'imputer des crimes ? »
Mademoiselle Duménil, émue des larmes d'une jeune personne si longtemps chère à son cœur, ne put exciter sa douleur sans la partager. Son indulgence naturelle la portait à excuser Ernestine, à rejeter sur sa belle-sœur l'égarement d'une fille simple et facile à séduire. Elle rêva un moment et, prenant la main de son amie, « Soyez vrai, lui dit-elle, répondez sans hésiter à mes demandes. Quand je vous écrivis de Bretagne, pourquoi ne me donnâtes-vous point de vos nouvelles ? Comment négligeâtes-vous mes avis pendant la maladie de mon frère ? Je vous offrais après sa mort un asile décent et agréable, pourquoi le refusâtes-vous ? Enfin, pourquoi m'écrivit-on de votre part de ne plus m'inquiéter de votre conduite ?» En satisfaisant à ces questions, Ernestine découvrit à mademoiselle Duménil qu'elle-même se croyait en droit de l'accuser de négligence. Henriette vit qu'on avait tendu des pièges à son amie. Elle ne douta point que, d'intelligence avec le marquis de Clémangis, madame Duménil eût soustrait à la connaissance d'Ernestine des lettres capables de l'éclairer sur les dangers de sa situation. Elle soupira, s'attendrit.
« On nous a trompés l'une et l'autre, » dit-elle. Deux perfides ont rendu ma prévoyance inutile. Ils ont bassement profité des circonstances, de mon éloignement, de votre crédulité. Mais où nous conduit cette triste certitude ? Vous vous trouvez heureuse ? Quelle apparence de vous ramener à vos premiers principes ? Après avoir goûté les douceurs de l'opulence, est-il facile de s'en priver ? Pourriez-vous renoncer au marquis de Clémangis, à ses bienfaits intéressés, fuir, mépriser, haïr cet homme vil ?
Renoncer à lui, le fuir, le mépriser ? S'écria Ernestine. Quel nom osez-vous lui donner ? Et pourquoi le fuir ? Qu'a-t-il fait ? Par où mérite-t-il d'exciter l'horreur qu'il vous inspire ?
Vous m'embarrassez, reprit Henriette. Comment mes discours vous causent-ils tant de surprises? Ne recevez-vous pas les visites de cet homme? Ne passe-t-il pas une partie du jour dans votre appartement? D'autres personnes y sont-elles admises? Êtes-vous déterminée à continuer ce commerce déshonorant? Si vous aimez le marquis de Clémangis, si la seule idée de vous séparer de lui vous révolte, vous arrache un cri de douleur, que venez-vous donc faire ici? Apprenez-moi le sujet de cette étrange démarche. Prétendez-vous excuser votre conduite, me contraindre à l'approuver? Que me voulez-vous? Que me demandez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Un commerce déshonorant, répéta Ernestine. Et depuis quand l'amitié déshonore-t-elle l'objet qui la fit naître, l'excite et la partage? Personne n'est admis dans mon appartement. Et qui chercherait à me voir? Le marquis de Clémangis est ma seule connaissance, mon unique ami. Élevé loin du monde, accoutumé à m'occuper, je n'ai point encore senti le besoin de me distraire, de me fuir moi-même, ni le désir de former des liaisons. Madame Duménil, autrefois si répandue, depuis l'instant où elle est rentrée dans ses biens, s'est éloignée de ses amis, n'a plus songé. Rentrée dans ses biens, elle? Interrompit Henriette. De quel bien me parlez-vous? Ernestine conta alors l'histoire que Madame Duménil lui avait faite à la campagne. Et sans s'apercevoir de la surprise d'Henriette, « Vous me reprochez mon affection pour le marquis de Clémangis, » ajouta-t-elle. « S'il vous était connu, vous l'approuveriez. Oui, l'idée de ne plus le voir me révolte, elle blesse mon cœur. Une douce intimité s'est établie entre nous, elle fait mon bonheur et sans doute le sien. La présence de cet homme aimable inspire je ne sais quel sentiment délicieux dont le charme est inexprimable. » Dès qu'il est près de moi, je me trouve heureuse. Je lis dans ses yeux qu'il est content aussi, et j'aime à penser qu'un même mouvement cause ses plaisirs et les miens. Henriette joignit les mains, leva les yeux au ciel. Mon Dieu, s'écria-t-elle, ai-je bien entendu? Quelle espérance s'élève dans mon cœur! Cet aveu, son ingénuité? Oh, ma chère Ernestine, es-tu encore innocente? Dans le transport vif et tendre de sa joie, elle pressait sa charmante amie contre son sein. « Non, disait-elle, non, Ernestine n'avouerait point un coupable attachement avec cette liberté. Elle est trompée, elle n'est pas séduite. Il est encore temps de la sauver du danger où sa crédulité l'expose. » Des questions suivies, des réponses positives, amenèrent enfin l'éclaircissement que toutes deux désiraient. La conduite du marquis étonnait Mademoiselle Duménil, elle lui paraissait singulière, mais elle connaissait trop le monde pour la juger favorablement. Que devint Ernestine en apprenant d'elle où cette conduite pouvait la guider? Et quoi, des soins si tendres, des bienfaits si grands, répandus sur elle avec tant de profusion et de secrets, tendaient à lui ravir un bien dont la richesse et la grandeur ne pourraient jamais réparer la perte? Mademoiselle Duménil, entrant alors dans des détails nécessaires à ses desseins, s'étendit sur la façon de penser, libre et inconséquente des hommes, sur la contrariété sensible de leurs principes et de leurs mœurs. « Oh, ma chère amie, vous ne les connaissez pas !» lui disait-elle. « Ils se prétendent former pour guider, soutenir, protéger un sexe timide et faible. Cependant, eux seuls l'attaquent, entretiennent sa timidité et profitent de sa faiblesse. Ils ont fait entre eux d'injustes conventions pour asservir les femmes, les soumettre à un dur empire. Ils leur ont imposé des devoirs, ils leur donnent des lois, et par une bizarrerie révoltante, née de l'amour d'eux-mêmes, ils les pressent de les enfreindre, étendent continuellement des pièges à ce sexe faible, timide, dont ils osent se dire le conseil et l'appui. Ah, ne comparez pas le marquis de Clémangis à ces hommes insensés, s'écria Ernestine. Ne lui supposez point de cruelles intentions. Jamais il n'a formé l'horrible projet de me séduire, de me rendre méprisable et malheureuse. Non, son affection est aussi pure que la mienne. Ah, si vous le voyez, si vous lui parliez! Eh bien, interrompit Mademoiselle Duménil, je le verrai, je lui parlerai. Je souhaite que son amitié soit innocente et désintéressée. Mais en le supposant, comment excuser l'imprudence de sa conduite? En vous engageant à vivre dans une terre dont il venait de faire l'acquisition, ne vous a-t-il pas exposé à paraître dépendante de lui? en vous dérobant à tous les regards, ne laissait-il pas croire que vous existiez pour lui seul? Il vous cachait ses bienfaits, mais pouvait-il les cacher aux autres? Madame Duménil est-elle inconnue? Ignore-t-on ses facultés? Ses anciennes amies, surprises de ne plus la voir, ont voulu pénétrer le mystère de sa retraite, elles l'ont découvert, elles ont parlé. Depuis le retour du marquis, quelles idées se seront élevées dans l'esprit de vos valets, des siens? Idées grossières mais malignes, étendues et dont la communication est prompte. Moi-même, ne vous ai-je pas cru coupable? Monsieur de Clémangis est votre ami, dites-vous? Non, Ernestine, non, il ne l'est pas. L'homme qui sacrifie notre réputation à son amusement, à ses plaisirs, est-il donc un ami? A-t-il donc une affection pure? Mais vous pleurez, continua-t-elle, vous gémissez, vous ne m'écoutez point? Je ne vous ai que trop entendu, dit Ernestine. Vous venez de détruire la paix de mon âme, tout le bonheur de ma vie. Ah, pourquoi dissipez-vous une si flatteuse illusion? Et, cachant son visage inondé de pleurs dans le sein de son amie, « Oh, ma chère Henriette, pardonnez-moi » lui criait-elle. « Pardonnez ma douleur, souffrez qu'elle éclate. Je ne puis applaudir à votre raison, je ne puis être reconnaissante de vos bontés. Ah, fallait-il m'éclairer? Mon erreur me rendait si heureuse que je hais le monde, ses usages, ses préjugés, ses malignes observations. Que dois-je à ce monde où je ne vis point? Quoi, faudra-t-il immoler mon bonheur à ces fausses opinions? Et que m'importent ces vains, ces téméraires jugements, quand je suis innocente, quand mon cœur ne se reproche rien? Vous me troublez, vous m'affligez, reprit Mademoiselle Duménil. Que vous êtes attachée à Monsieur de Clémangis! Ne puis-je essayer de vous rendre à vous-même qu'en perçant votre cœur de mille traits douloureux? Mais cessez de pénétrer le mien par ces cris, ces gémissements dont je suis trop touchée. Pourquoi ces larmes? Vous êtes libre, Ernestine. Eh bon Dieu, ai-je le droit de vous contraindre, de vous arracher avec violence ce bonheur dont vous regrettez si vivement la perte? Vous pouvez le goûter encore, rien ne s'oppose à vos désirs. Oubliez que vous m'avez vu, perdez le souvenir de mon amitié, de mes vains efforts. Allez, retournez avec la ville complaisante qui s'est bassement prêtée à vous faire connaître cette félicité passagère. Ce n'est pas de moi, c'est d'elle que vous devez vous plaindre. Cette femme inconsidérée est la véritable cause de vos peines. Puisse-t-elle ne l'être pas un jour de votre honte et de vos remords? Que je suis malheureuse, s'écria Ernestine. Qu'un instant a répandu de troubles et d'amertume dans mon cœur. On craint pour moi la honte et les remords. Oh, ma chère Henriette, ne méprisez pas votre amie, ne vous offensez pas de mes plaintes. Je suis faible et peut-être injuste. La douleur oppresse mon âme, abat mes esprits, je ne me connais plus. Ne me dites point de retourner chez celle qui m'a trompée. Je me livre à vous, à vos conseils, à vos lumières, à votre amitié. Ah, je ne regrette point l'aisance où je vivais, la fortune que j'abandonne. Mais cette aimable amie, si tendre, si sincère, imprudente à vos yeux, mais respectable aux miens, cette amie dont la main généreuse me comblait de biens sans se laisser apercevoir, sans rien exiger de ma reconnaissance, cette amie si chère, si digne de mon estime, de mon attachement, qui s'est fait une douce habitude de me voir, de me parler, d'être avec moi. Faut-il l'affliger, le fuir, le quitter durement, l'inquiéter, lui causer les mêmes peines que je sens? Non, ma chère Ernestine, il ne le faut pas, reprit Mademoiselle Duménil. Il faut au contraire le voir, lui parler, lui faire agréer la résolution que vous prenez de quitter Madame Duménil. Et qui vous dit de renoncer aux douceurs d'un commerce innocent, de vous priver avec effort du plaisir de recevoir les visites de Monsieur de Clémangis? Ne vivant plus de ses bienfaits, retiré dans un asile décent, il vous sera facile et permis de cultiver cette amitié si chère à votre cœur. Écrivez au marquis, priez-le de se rendre à l'instant ici. Vous préviendrez l'inquiétude où vous craignez qu'il ne se livre. Un moment d'entretien me fera connaître sa façon de penser. Il ne désapprouvera pas mes conseils, je l'espère. Mais s'il les rejette, ne serez-vous pas maîtresse de suivre les siens? Ernestine prit une plume et d'une main tremblante, elle traça ces mots. « On vient de m'apprendre que je ne dois à Madame Duménil ni égard ni reconnaissance. Ne me cherchez plus chez cette femme, je la quitte pour jamais. Vous qui, depuis un an, jouissez de mon amitié, de mon estime, de ma plus tendre affection, êtes-vous un homme perfide? Si vous pouvez justifier vos intentions aux yeux d'une fille respectable, venez chez Mademoiselle Duménil. Je vous y attends avec crainte, avec impatience. Je désire, j'espère, je crois que vous êtes digne de mes sentiments. Ah, venez le prouver à mon amie, à ma seule amie, si vous m'avez trompée.